Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. L'Arabie Saoudite a-t-elle perdu son influence et est-elle entrée dans une phase de décadence? C'est la question que pose l'avocat spécialiste des questions internationales, Ardavan Amir Aslani, dans son dernier livre consacré au royaume wahhabite. Une monarchie d'un autre âge, un peuple privé de libertés essentielles, une économie basée sur le pétrole qui chancelle, une obsession quasi maladive face à l'Iran et l'apparition d'une organisation combattante, l'État islamique, dont le discours fait écho à celui des imams wahhabites. Autant d'éléments qui plaident en faveur d'une fin que l'auteur qualifie d'inéluctable, la chute des Saouds. Pas de revue de presse à proprement parler cette semaine, mais un regard sur deux événements qui ont marqué l'actualité sociale récemment. Le symposium de sculpture sur granit à Assouan, en Haute-Égypte, avec Alexandre Bouchanti, et la question récurrente de la place de la religion dans l'armée israélienne, avec Michel Paul.
Orient Hebdo sur RFI.
Ardavan Amir Aslani, bonjour.
Bonjour monsieur.
Avocat au barreau de Paris, vous dispensez un cours de géopolitique du Moyen-Orient à l'école de guerre économique, également à Paris. Vous êtes également essayiste et vous publiez aux éditions de l'Archipel « Arabie Saoudite, de l'influence à la décadence ». La décadence, on y reviendra. Alors, en 2020, écrivez-vous, l'Arabie Saoudite pourrait faire faillite. Serait-ce le début de la fin pour Riyad ?
Je dirais que c'est pas moi qui le dis, c'était le Fonds monétaire international qui le disait. L'Arabie Saoudite connaît maintenant, depuis la chute des cours pétroliers, des déficits chroniques. L'année dernière, 150 milliards, l'année d'avant, 120 milliards. C'est un pays qui court tout droit à la faillite économique. Il faut savoir que la société saoudienne est fondée sur l'axe pétrolier. La société saoudienne, pour exister, a besoin, si j'ose dire, de faire régulièrement l'objet d'injections financières de part du gouvernement. L'État saoudien achète la paix sociale avec la distribution d'argent au sein de sa population. Donc il est vrai que quand le pays dispose de moins de moyens financiers, il va bien évidemment que cette paix sociale risque d'être menacée.
Pourtant, le pays conserve une certaine importance dans la région moyenne-orientale, c'est une évidence, mais est-ce que la rente pétrolière, c'est un peu le talon d'Achille de ce pays ?
95% des recettes saoudiennes viennent du pétrole. Aujourd'hui, avec l'administration Trump qui encourage les exploitations de gisements miniers, de gaz de schiste, si vous voulez, à travers la fracturation hydraulique, on va vers une période où les cours pétroliers ne pourront que baisser. L'Iran revient sur le marché, des nouveaux gisements sont identifiés à peu près partout, donc le pétrole ne peut que baisser. Aujourd'hui, on est aux alentours de 57 dollars, c'est-à-dire exactement la moitié de ce qu'a été le cours international il y a un peu moins de 2 ans, on va vers un cours inférieur à 50 dollars sur les 12 prochains mois. Donc on peut raisonnablement considérer que l'Arabie Saoudite va connaître, si vous voulez, un manque de recettes financières.
Mais quelles conséquences cela peut avoir sur la population saoudienne ?
Si vous voulez, c'est une population qui est extraordinairement jeune. 70% des Saoudiens ont moins de 35 ans. C'est une population qui, globalement, compte sur l'État pour vivre et pour subsister. 80% de la population saoudienne compte sur des emplois dans la fonction public pour durer. Aujourd'hui, l'État saoudien a imposé une politique draconienne, si vous voulez, en matière de restriction budgétaire. Les embauches se font tarder, les augmentations de salaire n'arrivent pas. On est quand même dans un pays où, lorsque le roi Salman a pris le pouvoir, il a doublé le salaire de l'ensemble du corps de la fonction publique pour, si j'ose dire, permettre son arrivée dans des conditions meilleures. Donc quand il y a moins d'argent, il y aura moins de satisfaction dans la population. N'oublions pas également que l'Arabie saoudite, si vous voulez, même si c'est un pays très riche, qui dispose encore aujourd'hui de 700 milliards de réserves, ses coûts de maintien, si j'ose dire, sont particulièrement importants. C'est un pays qui, en fait, a besoin d'un baril à 120 dollars pour pouvoir équilibrer son budget. Vous voyez, on est bien loin du compte.
Absolument. Et vous écrivez également que la monarchie est une monarchie d'un autre temps. Alors, on sait qu'elle est basée sur deux piliers, le politique pour les Saouds et tout ce qui est religieux pour le wahhabisme. C'est cela la fragilité de cette monarchie ?
Je dirais que c'est une extrême fragilité. C'est une monarchie qui est fondée en fait sur une alliance qui est intervenue il y a à peu près 2 siècles entre le fondateur de la dynastie Al-Saoud et un prêcheur wahhabite salafiste qui s'appelait Ibn Wahhab. Et bien ce personnage-là, si vous voulez, qui avait une vision particulièrement réductrice de l'enseignement de l'islam, a conclu une sorte de pacte avec la famille Saoud, disant que je vous soutiens dans votre expansion territoriale tant que vous imposerez cette version salafiste particulière de l'islam sur les territoires conquis. Et bien c'est cette thèse-là qui continue continue encore aujourd'hui. Le problème, c'est qu'en 2017, nous sommes dans une situation où la jeunesse saoudienne, qui est une des jeunesses les plus actives sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment, ne peut plus, si vous voulez, se contenter d'une vie qui soit systématiquement fondée sur des restrictions au niveau des libertés sociales et des libertés publiques. Cette jeunesse aspire à autre chose, chose qui vient en conflit direct avec la vision orthodoxe de l'islam promue par l'État.
Mais justement, le vice-prince héritier MBS, Mohamed Ben Salman, le fils du roi actuel, lui tente de surfer sur cette vague moderne.
Je ne le pense pas. Je dirais que même lui-même est dans une grande mesure la cause du durcissement, si j'ose dire, de la vision islamiste aujourd'hui en Arabie Saoudite. Pourquoi ? Parce que quand le roi Salman, en décalage radical par rapport à la tradition saoudienne, remplace la ligne successorale désignée par son prédécesseur, le roi Abdallah, eh bien, globalement, l'entente au sein de la famille royale n'existe plus. Puisqu'il a transposé dans la vie pratique un vice-prince héritier qui, lors de sa nomination, n'avait que 29 ans. Il occupe aujourd'hui 4 postes fondamentaux dans le pays, ministre de la Défense avec la guerre au Yémen, responsable du développement économique, la commission qui est en charge du développement économique, responsable de la commission de surveillance de l'Aramco, qui est la société pétrolière, et également directeur des affaires particulières de son père. Aujourd'hui, il a 31 ans, manque d'expérience. Et le poste qu'il occupe aujourd'hui a dû court-circuiter d'autres princes plus âgés, plus capables que lui. Et aujourd'hui, je dirais que pour asseoir davantage leur pouvoir, ils ont ce recours systématique qu'ils ont toujours eu, le recours vers la radicalisation de l'islam sur le fondement du salafisme wahhabite.
Mais une Arabie Saoudite sans les Saouds est-elle envisageable ?
Parfaitement, une Arabie Saoudite sans les Saouds a toujours été, d'ailleurs. Les Saouds, c'est un phénomène récent en tant que puissance dominante des villes saintes de Mecque et Médine, ça date uniquement des années 30, 1930. Donc c'est un royaume, si j'ose dire, qui a toujours existé sans les Saouds. D'ailleurs, la famille la plus légitime, la plus apte à gouverner, c'était celle qui gouvernait naguère, c'était les Hachémites qui aujourd'hui sont cantonnés en Jordanie, qui étaient les shérifs historiques de la ville de Mecque et de Médine. Donc il y avait d'autres grandes familles saoudiennes qui exerçaient leur influence territoriale. Les Saouds ont eu au moins le mérite d'unifier dans le sang, le pays.
Alors sur la question des droits de l'homme, on sait que depuis le 28 octobre 2016, l'Arabie Saoudite préside le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Or le pays est qualifié chaque année, je le cite, de pire des pires pays au monde pour le respect des droits de l'homme par les ONG internationales. N'est-ce pas paradoxal hein ?
Je dirais que la notion de paradoxe, une notion d'euphémisme en la matière, parce que vous avez affaire à un pouvoir qui aujourd'hui sanctionne les comportements les plus élémentaires de liberté sociale. Si vous êtes un garçon, vous n'avez pas le droit, si j'ose dire, de vous balader dans les rues avec une fille qui ne soit pas votre mère, votre sœur ou votre fille. On est dans une société où un simple blogueur est condamné à 1000 coups de fouet. On est dans une société où légalement, chaque semaine, je dirais, des têtes tombent parce que décapitées et des corps décapités sont crucifiés. Franchement, je ne peux pas imaginer sur Terre une société encore plus arriérée que celle de l'Arabie Saoudite. Et les voir aujourd'hui présider une commission qui est consacrée à la protection des droits de l'homme, je trouve ça tout simplement grotesque.
Alors parmi les écueils qui reviennent fréquemment face à l'Arabie Saoudite, il y a l'Iran. Est-ce que l'Iran est vraiment l'obsession de l'Arabie Saoudite ?
Oui, les Saoudiens aujourd'hui vivent dans une obsession extrême. Ils se sentent menacés par l'Iran. Il y a quelques années, on parlait de la notion de croissant chiite. Aujourd'hui, on parle de la pleine lune chiite. Pourquoi ? Parce qu'avec l'axe de Bagdad, de Damas, du Hezbollah au Liban, auquel s'ajoute Sana'a au Yémen, les Saoudiens ont l'impression d'être totalement entourés par la puissance chiite. Et puis, c'est pas tellement qu'ils pensent que les Iraniens vont les envahir. Ils pensent qu'ils vont retourner à leur place de pays de seconde zone, place que l'Arabie Saoudite occupait dans les années 70, au moment où l'Iran impérial dominait la région. Ils n'ont pas envie de ce retour en arrière. Donc, ils font tout ce qu'ils peuvent pour empêcher le retour de l'Iran dans le Conseil des Nations et l'émergence de ce pays, qui est le dernier pays non émergé, qui reste.
Est-ce cela qui explique que l'Arabie Saoudite soit intervenue au Yémen alors que les Houthis du Yémen sont quand même relativement loin des chiites d'Iran ?
Absolument, je dirais même qu'ils sont, d'un point de vue doctrinal, les plus éloignés de la communauté chiite internationale. Mais pour eux, le Yémen, c'était un peu leur jardin arrière, c'était l'accès au Bab el-Mandab, la mer Rouge, et très important pour eux pour les exportations pétrolières. Et puis n'oublions pas que les Houthis, si vous voulez, on a tendance à les présenter comme étant un mouvement rebelle d'il y a 40 ans, mais en fait c'est un mouvement qui vise à ramener en Arabie Saoudite, pardonnez-moi, sur la péninsule arabique, un royaume qui a existé pendant 9 siècles jusqu'en 1962 sans discontinuité avec un imam à sa tête. Donc ce sont des gens qui aspirent juste à un retour vers un état indépendant chiites qu'ils ont connus. Donc les Saoudiens essayent de le présenter, si vous voulez, comme les agents de l'Iranien, mais je ne pense pas que l'Iran apporte autre chose comme secours aux Houthis qu'un soutien au niveau de la rhétorique, compte tenu de la fermeture totale du pays par les forces saoudiennes. Donc voilà, ils essayent d'écraser cette guerre civile, en fait, mais dans la pratique, ils n'y arrivent pas. Je vous rappelle que cette guerre-là dure maintenant depuis 3 ans, et que l'opération initiale s'appelait Tempête décisive, et je dirais que la seule chose décisive que cette agression a eu lieu sur le peuple yéménite, ce sont les morts civiles. On est aujourd'hui à 20 000. Et je dirais que l'aviation saoudienne, qui manque d'expérience, n'ose même pas descendre en deçà de 10 000 pieds. Donc l'arc, ses bombes à tort et à travers, et finit par frapper des processions funéraires comme on l'a connu, ce qui a amené l'administration de Trump à arrêter sa coopération militaire avec les Saoudiens ou à bombarder les écoles et les hôpitaux. Donc je ne vois pas la fin de cette guerre.
Parlons de Daesh maintenant. Vous dites que Daesh, c'est le Frankenstein de l'Arabie Saoudite. Que voulez-vous dire par là?
Si vous voulez, Frankenstein dans le sens où il y a un créateur, une créature. L'Arabie Saoudite a créé Daesh. Daesh, en fait, quand on le regarde bien, n'est que la traduction sur un plan pratique dans une zone géographique différente de ce qu'est l'Arabie Saoudite. J'ai moi-même souvent tendance à qualifier l'Arabie Saoudite comme un Daesh qui a réussi. D'ailleurs, quand vous regardez globalement les préceptes enseignés par Daesh, il n'y a aucune différence avec ce qui prévaut aujourd'hui en Arabie Saoudite. La population saoudienne, d'ailleurs, est en symbiose parfaite avec les thèses de Daesh. Et ils ne comprennent pas, d'ailleurs, que leur gouvernement, soi-disant, apporte son concours aux Américains pour combattre Daesh, puisqu'ils les identifient davantage comme étant une émanation d'eux-mêmes qu'autre chose. Ils préféraient, au contraire, que l'Arabie Saoudite s'engage davantage à l'encontre des chiites qu'à l'encontre de Daesh, qu'ils s'identifient comme étant des ennemis inexistants et en réalité des frères.
Merci Ardavan Amir Aslami.
Merci,
je rappelle
monsieur,
que vous êtes avocat au barreau de Paris et je renvoie à votre livre Arabie Saoudite, de l'influence à la décadence, publié aux éditions de l'Archipel.
Orient Hebdo sur RFI.
Nous allons maintenant au Caire, où nous attend Alexandre Moutianti, comme chaque semaine. Alexandre, nous parlons de la ville d'Assouan, à l'extrême sud de l'Égypte, qui a récemment accueilli le Symposium international de sculpture, 22e édition. L'objectif de cette manifestation est de restaurer une tradition inaugurée par les pharaons il y a 5000 ans, la sculpture sur granit.
Au cours d'un quart de siècle, le Symposium d'Assouan a produit plus de 300 œuvres, dont la plupart sont exposées dans un musée à ciel ouvert, sur une colline au sud de la ville. Le reste des œuvres a été donné à diverses municipalités égyptiennes pour orner les places publiques. Des statues qui ne plaisent pas à tout le monde et qui ont même failli disparaître quand les frères musulmans sont arrivés au pouvoir en 2012.
Pour quelle raison, Alexandre ?
Pour les islamistes, comme pour beaucoup de musulmans fondamentalistes, les statues sont apparentées aux idoles païennes interdites. Certains chers extrémistes sont allés jusqu'à demander l'enterrement du sphinx de Gizeh sous le sable à défaut de le détruire. Lors d'une réunion électorale sur une grande place d'Alexandrie, les salafistes ont bâché une statue de sirène. Des frères musulmans plus pragmatiques ont proposé de recouvrir les statues de cire transparente. Ainsi, on ne portait pas atteinte au tourisme tout en recouvrant symboliquement les idoles. Entre-temps, les départements de sculpture des Beaux-Arts avaient pratiquement fermé leurs portes, faute d'étudiants.
Pourtant, cette renaissance de la sculpture en Égypte date déjà de 2 bons siècles.
Tout à fait. Le Caire, comme toutes les grandes villes d'Égypte, ont vu fleurir des statues monumentales, des statues équestres du vice-roi Mohammed Ali et de son fils le général Ibrahim Pacha, ainsi que d'imposants lions sur le pont Kasrenil, sans oublier les grands hommes d'État. Des œuvres qui étaient celles de sculpteurs étrangers et notamment français. Il a fallu attendre 1928 pour voir l'œuvre d'un artiste égyptien exposée sur une grande place du Caire, la statue en granit de la Renaissance de l'Égypte de Mahmoud Mokhtar.
Finalement, Alexandre, tout est revenu à la normale.
Pas tout à fait, car si le danger islamiste est pour l'instant écarté, il n'en va pas de même pour le mauvais goût. Le summum a été atteint avec une statue kitsch de la reine Néfertiti, où la belle des belles ressemblait à une sorcière de dessin animé.
L'art et la manière, deux choses bien différentes. Merci Alexandre. Destination Jérusalem maintenant pour retrouver Michel Paul. Michel, qui dirige vraiment l'armée israélienne? Question apparemment saugrenue quand on sait que le pays ne connaît pas la séparation entre l'État et la religion, mais elle provoque, cette question, la controverse en Israël.
Bien, c'est un sujet qui fait régulièrement la une en Israël, mais cette fois, il a quasiment provoqué une crise politique qui n'est toujours pas complètement réglée. Et celui qui a mis le feu aux poudres, si l'on peut dire, est le directeur d'un institut talmudique, une yeshiva où étudient de jeunes Israéliens pratiquants dans le cadre de leur obligation militaire. Le rabbin Yigal Levenstein s'en est pris avec beaucoup de fougue au service militaire des jeunes femmes dans les unités combattantes.
Ils rendent les soldates folles. Elles entrent à l'armée juive, mais ne le sont plus quand elles en sortent. Toutes leurs valeurs changent.
Alors, il faut dire, Eric, que les femmes dans l'armée israélienne effectuent un service obligatoire de 2 à 3 ans. Les femmes religieuses en sont exemptées, mais celles qui font ce service militaire sont le plus souvent cantonnées à des tâches administratives ou alors médico-sociales ou encore d'intendance et d'éducation. Il y a depuis des années des femmes pilotes de chasse et il existe une tendance relativement nouvelle de soldats dans les unités combattantes. Elles ne représentent qu'environ 5% de l'ensemble du contingent féminin, mais cette tendance est à la hausse.
Ce qui dérange, Michel, est-ce la promiscuité dans les unités mixtes ?
Absolument. Les rabbins s'opposent à cette promiscuité de toutes leurs forces, et même les plus modérés. Écoutez Jaco Grunewald, rabbin et journaliste.
Je pense qu'il faut l'éviter à tout prix, parce que, bon, il faut être sérieux. Un homme et une femme dans un tank, alors que ils ne sont pas mariés, n'est-ce pas? Et cela conduit nécessairement à un risque de rapport interdit.
Et ce sont les soldats pratiquants eux-mêmes qui, dans certains cas, menacent de ne plus servir dans les unités mixtes. Dans le passé récent, certains d'entre eux ont même boycotté des cérémonies militaires sur ordre de leur leader spirituel, car des femmes y prenaient part.
Mais le problème semble plus vaste, Michel. Il toucherait d'autres types d'ordres.
Notamment l'évacuation de colonies de peuplement, cela a été le cas en 2006 avec le désengagement de la bande de Gaza et plus récemment avec le démantèlement de l'avant-poste dans le nord de la Cisjordanie, l'avant-poste d'Amona. Certains rabbins estiment ces ordres contraires à la loi juive. Explication du rabbin Grunewald.
Nous avons dans la loi israélienne un élément qui me paraît d'une très grande importance, c'est le fameux drapeau noir qui se lève lorsque vous recevez l'ordre d'accomplir un acte qui serait un acte immoral. Et à ce moment-là, fût-ce le chef d'état-major qui vous le demande, vous n'avez pas à obéir au chef d'état-major.
Eric, c'est une décision de la Cour suprême israélienne qui a fait suite au massacre de 47 habitants du village de Kafr Qassim qui, en 1956, avait enfreint le couvre-feu. Et c'est cette décision qui est avancée par certains rabbins pour décréter des ordres comme illégaux. Et la question, bien sûr, est de savoir ce qui va se passer en cas de règlement du conflit israélo-palestinien qui impliquerait l'évacuation de nombreuses colonies de peuplement. Le processus de paix est au point mort, mais le débat, lui, est déjà entamé.
Merci Michel. Ainsi s'achève Orient Hebdo, réalisé par François Porcheron. Vous pouvez nous réécouter sur le site de la radio www.rfi.fr, rubrique émission, ainsi que sur notre page Facebook. La semaine prochaine, nous évoquerons les relations entre la France et les pays de la rive sud de la Méditerranée, thème du numéro 34 de notre partenaire, la revue Moyen-Orient. En attendant, passez une bonne semaine à l'écoute de RFI. Tout de suite, un nouveau journal.